avant d'aller dans Matthieu, chapitre 8, que je vous invite à aller avec moi. Alors que ce matin, on commence une nouvelle série d'une dizaine d'études dans le livre de Matthieu, au chapitre 8 à 10. Le livre de Matthieu est spécial, construit à la manière juive, avec des sections narratives de récits qui sont suivies ensuite d'un chapitre souvent d'enseignement du Seigneur Jésus, comme le chapitre 8 et 9 sont bien connus, le sermon sur la montagne. S'ensuit deux chapitres de narration et le chapitre 10, qui est l'enseignement de Jésus alors qu'il envoie ses disciples dans la mission et qui donne beaucoup de consignes sur la mission. Et c'est ce qu'on va regarder en particulier. Le style de Matthieu est particulier, différent un peu des autres, puisqu'il s'adresse à la communauté juive et veut présenter Jésus comme le roi, le Messie tant attendu. Et que, évidemment, le livre de Matthieu commence avec le roi d'Israël, à ce moment-là, Hérode, qui veut se débarrasser de ce roi juif, le légitime, le fils de David. Et donc, le livre de Matthieu a sa saveur particulière. Et dans les chapitres 8 à 10 qu'on va regarder au cours des prochaines semaines, on veut regarder qu'est-ce que c'est de marcher sur les traces de Jésus, de voir Jésus à l'œuvre alors qu'il rencontre des gens, de voir l'enseignement de Jésus qui nous parle de ce que c'est d'être un disciple, de voir l'attitude de Jésus sur comment il traite et prend soin des gens quand il les rencontre. Comment ça se passe? Toutes sortes de rencontres, toutes différentes. Qu'est-ce qu'il leur dit? Apprendre sur Jésus et après ça, être en moyen d'être envoyé dans la mission au chapitre 10. Et donc, on est sur les traces de Jésus dans ces chapitres alors qu'on veut voir son ministère, le connaître, être transformé par lui, par ses rencontres dans notre cœur pour pouvoir nous-mêmes être envoyés dans la mission. Et de prendre soin de nos contemporains qui ont besoin, tout comme les gens qui ont rencontré Jésus, d'être amenés à Jésus. Vous savez, c'est la mission de notre Église, aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. C'est ça, tout simplement. Aider toute personne à entrer en relation avec Jésus pour grandir, pour partager et pour servir. Pour grandir dans la foi, grandir en Jésus, pour partager la foi, pour servir Jésus, la communauté ici et élargie. Aider toute personne à entrer en relation avec Jésus. Et c'est ce que Jésus fait, en toute simplicité. Et là, on est dans le chapitre 8. Et dans le chapitre 8, bien, on est dans une séquence de trois miracles que Jésus fait, qu'on va regarder cette semaine, la semaine prochaine et dans deux semaines. Et je vous invite à y aller avec moi. Alors que Jésus rencontre un homme qui est isolé depuis longtemps. Et ça m'a fait penser à une histoire que j'ai lue cette semaine d'une dame qui est allée en mission en Afrique. Elle était en Afrique de l'Est, dans une mission médicale. Elle était là pour aider, mais se sentait tellement inutile. Inutile parce qu'elle n'avait pas une compétence médicale. Elle était là pour assister des gens qui, eux, avaient une compétence médicale. Puis elle se disait, « Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? » Elle ne se sentait pas à sa place. Elle se sentait inutile, un peu. « Qu'est-ce que je vais faire? » Et elle se sentait mal devant tous ces malades. Et un jour, néanmoins, alors qu'elle servait, qu'elle aidait en Afrique de l'Est, dans cette clinique médicale, elle vécut une expérience particulière où ce qu'elle devait prodiguer des soins de base. Et sur place, elle rencontre une dame qui était atteinte d'une maladie horrible, mais qui était soignable. La jambe déformée de cette femme était tout à fait répugnante, dégradée depuis longtemps. Mais cette dame savait qu'elle devait agir, alors elle prend le temps de nettoyer, de panser la jambe, prendre soin de prendre soin de la plaie, et avec patience. Et tout à coup, cette dame qu'elle prend soin, commence à pleurer. Elle lui demande si elle lui avait fait mal, évidemment, parce que c'était sensible. Elle dit non. Elle dit, c'est la première fois que quelqu'un me touche depuis 9 ans. Sa maladie est répugnante, la dégradation de sa santé, la peau, cette jambe qui était difforme, faisait que personne ne la touchait depuis 9 ans. Et cette femme qui se sentait inutile venait de poser un geste, pas médical avant tout, un geste de bénédiction, de juste toucher une personne qui n'avait pas été touchée depuis 9 ans. Et cet homme, ce matin, que Jésus va toucher, je ne sais pas depuis combien d'années il n'a pas été touché, ce lépreux, mais il n'a pas été touché depuis longtemps. Et cet homme est désespéré et il a besoin de rencontrer quelqu'un qui va le toucher d'une façon que personne d'autre peut le toucher. Parce que personne ne peut le toucher. Il est lépreux. Personne, selon la loi, personne dans son bon sens peut toucher cet homme-là. Personne n'a de moyen de le guérir, cet homme-là. Et partout où il va, il doit crier sa présence, sûrement un foulard dans le visage. Quand je pense à Lépreux, je pense au film de Ben-Hur, la vieille version que certains ont vue, hein, où ce que, à un moment donné, dans la fête de son film, après qu'il revient pour retrouver sa famille, il trouve finalement sa mère, sa sœur, lépreux, habillée en lambeaux, avec un foulard caché, difforme par la maladie de la lèpre, isolé de la société, dans une caverne, plus personne, t'es condamné à mort rendu là. Et cet homme-là, tout à coup, va venir voir Jésus et faire une demande tout à fait inattendue. Je vous lis ces quelques versets, chapitre 8, versets 1 à 4. Et comme il descendait de la montagne, avec une grande foule qui le suivait, parce qu'il venait justement de faire le sermon sur la montagne, chapitre 8, 5, 6, 7, c'est le sermon sur la montagne. Alors, il descend ici, il y a une foule qui est avec lui, et voici, à la fin, les gens ont tout entendu son enseignement, là. Il vient de dire, « Hey, cet homme-là, il enseigne avec autorité, ils le suivent, et là, il y a cet homme-là qui se présente à Jésus. » Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui. Imaginez la scène. Et dit, « Seigneur, si tu le peux, si tu le veux, hein, tu peux me purifier. » C'est très, il n'utilise pas le mot « guérir ». C'est plus large que juste guérir qu'il désire. C'est la purification. Parce que la purification, après avoir été guérie, permettait de retourner dans la communauté. Il y a plus large que juste la guérison physique que cet homme-là cherche. Il étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant, il fut purifié de sa lèpre. Et Jésus lui dit, « Garde-toi d'en dire mot à personne. » Ah, c'est spécial. « Mais plutôt, va montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ils auront là, un témoignage. » Seigneur, bénis ta parole. Enseigne-nous ce matin. Parle à nos cœurs, comme seul toi, tu peux nous parler. Peut-être qu'il n'y a personne d'entre nous qui a la lèpre physiquement. Mais peut-être on a le sentiment, par contre, à l'intérieur qu'on a une lèpre. Ou qu'on se sent isolé. Qu'on a besoin peut-être ce matin de purification. Que peut-être j'ai besoin ce matin d'être touché par toi, Seigneur. Il y a seulement toi, Seigneur, qui peut nous toucher de cette façon-là. Un toucher qui change tout dans notre vie, Seigneur. Un toucher même lorsque les autres ne veulent pas nous toucher. Ou que c'est peut-être même pas recommandé. Et Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Parle à nos cœurs et accorde à ton serviteur de parler de toi avec justesse. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Jésus descend après avoir enseigné une foule. Et quelle illustration de l'autorité de Jésus! Quelle illustration de tout ce que Jésus a enseigné comme principe de bonté envers ceux qui souffrent, de faire aux autres comme on aimerait qu'on nous fasse, etc. Et là, tout à coup, cet homme qui fait une demande que personne n'aurait même trouvé légitime de demander à qui que ce soit sur terre. Personne ne peut guérir la lèpre. Mais cet homme-là avait assez entendu parler de Jésus depuis un certain temps. Jésus n'est pas encore au paroxysme de son ministère. Il n'est pas encore une superstar, mais il en a entendu parler. Et cet homme-là a entendu assez parler de Jésus dans ce qu'il faisait dans la Galilée. Est-ce que lui, cet homme-là, peut-être avait suivi la foule, avait peut-être été au sermon sur la montagne? Est-ce qu'il avait entendu? On ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. Mais on sait une chose, c'est que cet homme-là était isolé. Parce que quand tu étais dans sa situation, tu étais isolé au niveau économique, tu ne peux plus travailler. Fait que donc, tu dois mendier. Isolé au niveau familial, c'est fini, là, les rencontres familiales avec quelqu'un qui est lépreux, tu ne le laisses pas dans ta maison. C'est fini, les contacts physiques, la vie de couple, c'est terminé. C'est fini, participer à toutes les fêtes juives de la communauté, tu es impur. Tu ne peux plus participer à rien jusqu'à temps que tu aies rencontré un prêtre pour être analysé et passer un test qu'on retrouve dans le livre de Moïse. Pour savoir que tu es effectivement confirmé par un prêtre comme étant quelqu'un qui a été guéri, qui est maintenant purifié et apte à revenir dans la société normale. Cet homme-là était hors société. Et quand tu le voyais, tu te tassais. Et quand il te voyait, il devait te faire signe qu'il allait venir et essayer d'éviter de passer proche de toi. Il devait même crier « impur, impur » à mesure qu'il approchait des gens pour les avertir. Sinon, c'était irresponsable. C'était ce qu'on s'attendait de lui avec sa maladie. Imaginez l'isolement de cette personne-là. Et la Bible ne nous dit pas combien d'années que c'était que cet homme-là vivait dans cette situation. Celui qui a proclamé la loi nouvelle est celui maintenant qui va adresser le lépreux ici et qui va accomplir les prescriptions légales de la loi. Et celui à qui est-ce que tu qui dis « je vous le dis », c'est celui qui dit « je veux » à cet homme-là. « Je veux que tu sois purifié et que cet homme-là va être purifié. » Ce matin, j'aimerais vous amener à regarder un mouvement en 5 étapes de ce qui se passe dans ce texte ce matin. Un lépreux qui rencontre Jésus. La première étape, c'est qu'il s'approcha. Le lépreux vient à Jésus. Il y a un mouvement ici qui se passe dans le texte où cet homme vient à Jésus. Ensuite, cet homme-là est touché. Ensuite, cet homme-là est purifié. Ensuite, on lui demande d'obéir. Et ensuite, finalement, cet homme-là devient un témoignage. Il y a une suite logique, mais une suite importante à traverser pour devenir un témoignage de Jésus-Christ et qui va marquer sa vie. Vous savez, la Bible nous donne quelques enseignements dans l'Ancien Testament sur justement des gens qui ont été guéris, des miracles particuliers. On se rappelle d'Élisée qui va guérir cet homme, de ce général de l'armée ennemie dans 2 Rois chapitre 5, je ne sais pas si vous vous rappelez, Naaman. Hein? Pour souvent, il y en a qui ne se rappelaient pas de cette histoire-là, ils se rappelaient plutôt comment que peut-être le lépreux qui est devant moi, peut-être que Dieu le maudit parce qu'il y a des péchés dans sa vie, parce que vous vous rappellerez peut-être que la sœur de Moïse, à un moment donné, allait jaser dans le dos de son frère, puis elle chialait dans son dos dans Nombre chapitre 12. Puis qu'est-ce qui lui arrive? Elle a la lèpre. Et là, elle doit être hors du camp. Tout le camp doit attendre pour elle jusqu'à temps qu'elle soit guérie et elle va revenir, le Seigneur va la restaurer dans la grâce de Dieu. Et des fois, on associait justement les gens qui avaient la lèpre. Ah, bien, il mérite, probablement, il y a du péché dans sa vie. Ou même, peut-être, c'est même ses parents qui ont mené la lèpre dans la famille ou chez lui. Et donc, on pouvait même te juger comme étant lié à la lèpre. Et la lèpre, le péché dans ta vie. Et ça ne veut pas dire que c'est le cas. La Bible ne nous dit pas cela, même si la Bible nous illustre le péché à travers l'image de la lèpre, tellement que ce n'est pas beau, que si tu devais imaginer une maladie qui illustre bien la lèpre, on va en reparler, qui illustre bien le péché, c'est la lèpre. Mais on va en reparler dans quelques instants. Mais cet homme-là était là et peut-être se sentait maudit de Dieu. Et il a le courage, il a le minimum de foi pour juste approcher Jésus et lui faire une demande tout à fait inusitée. Peut-être c'est le premier lépreux que Jésus va guérir à ce moment-là. On ne le sait pas exactement, mais c'est le premier qu'on nous raconte, du moins le détail, qui ose demander d'être guéri. Wow! Déjà, de s'approcher de Jésus et de le demander montre l'audace et le désespoir que vit cet homme-là à ce moment-là. Et vous savez, c'est pas drôle pour les gens qui vivent cette maladie. Et cette maladie, aujourd'hui, on n'est pas 100% sûr de pouvoir l'identifier, mais le docteur Paul Brann, un homme qui a vécu jusqu'en 2003, était le pionnier médecin missionnaire dans les Indes, qui a beaucoup documenté et parlé de la lèpre en Amérique du Nord par son ministère dans les Indes dans les années 50, 60, 70. Et lors d'une consultation, il raconte avoir touché un patient pour le rassurer et lui faire comprendre qu'un traitement était possible. Et des larmes ont coulé du visage de cet homme. Un accompagnateur qui traduisait à M. Brann lui a expliqué la raison des larmes. Il lui a dit ceci, « Vous l'avez touché et personne ne l'avait fait depuis des années. » Et ce que cet homme-là vit par votre toucher, c'est des larmes de joie. Parce que ça faisait tellement d'années. Et donc, on peut s'imaginer ici, dans cette maladie cutanée que cet homme-là vit, tout l'isolement qu'il vit. Et il ose, malgré tout, s'approcher. Vous savez, tu n'as pas besoin d'être lépreux pour avoir de la misère à t'approcher de Dieu. Il y a la culpabilité de bien des péchés qui peut nous empêcher de s'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être que vous l'avez déjà vécu à une époque de votre vie où ce que vous n'osez pas approcher de Jésus parce que vous avez honte de votre vie, peut-être d'un péché, d'un geste que vous aviez posé en particulier, que vous auriez jamais voulu que personne sache. Je me rappelle avoir parlé à un homme dans la 60aine, puis il dit, si tu savais telle chose que j'avais vue, Joël, tu ne me parlerais plus jamais. Telle chose que j'ai faite. si je te le racontais. Tellement qu'il portait encore dans la soixantaine une honte d'un geste passé et se sentait, face à la communauté, toujours impur, même si Dieu l'avait pardonné, à lutter dans son identité, comme s'il y avait un péché plus grand que les autres, plus honteux. Et c'est vrai, parfois il y a des péchés qu'on considère plus honteux au niveau social. Que tu aies menti sur tes impôts, on n'aura pas la même impression que si tu as fait un geste d'un crime sexuel, n'est-ce pas? Pourtant, devant Dieu, c'est un péché, mais même la loi va adresser ce péché-là différemment en termes de conséquences et en termes du regard social que les gens peuvent avoir sur toi, si les gens le savaient. N'est-ce pas? On va être honnête. Il y a des gens dont les péchés, on minimise, puis on ne regarde pas si grave que ça, mais pourtant d'autres péchés, on regarde avec un regard de dédain, de mépris. Et on peut imaginer certains qui portent dans leur cœur beaucoup de honte. Et peut-être ce matin, vous êtes là. À l'intérieur, vous vous sentez extrêmement impur. Vous gardez des choses cachées, que l'ennemi est bien content que vous gardez cachées, que vous restez dans votre honte, parce que pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de vous épanouir avec le Seigneur. Vous marchez la tête basse. Pas qu'on veut marcher la tête haute de fierté, mais on n'a plus à marcher la tête par en bas, dans la honte. Jésus, s'il nous a pardonné, il nous a pardonné au complet. Si Jésus t'a touché un jour, ton cœur, et touché ta vie de pécheur, et que tu as cru en lui, il libère de tout. Mais parfois, on transporte et on garde des choses qu'on reprend de culpabilité. Et peut-être ce matin, tu as honte d'une décision passée, d'un divorce, d'un geste, d'un crime, d'une action, de des pensées, de des luttes que tu as. Et le Seigneur veut que tu saches qu'il n'y a personne d'assez impur qui peut contaminer Jésus. Il n'y a personne d'assez impur que Jésus ne peut pas l'accueillir. Il n'y a personne d'assez impur, même aux yeux de toutes les gens qu'on considérait inacceptables, qu'on disait « Je te pardonne, mais reste loin de chez nous. » Que Jésus va quand même toucher et pardonner et rendre pur. Et peut-être ce matin, tu es dans cet état. Qu'est-ce que je fais lorsque quelque chose dans ma vie me rend honteux, me fait sentir indigne de m'approcher de Dieu? La tentation, c'est de le cacher, c'est de m'isoler et d'éviter. Et le Seigneur ici nous dit, par l'exemple du lépreux, de faire tout le contraire, de s'approcher de Jésus. Jésus t'invite ce matin, avec ce que tu portes, à juste t'approcher de lui. Veux-tu juste ce matin dire, « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais même pas comment te le demander, j'ai même trop honte de te faire la demande. » Et peut-être, Seigneur, je dis, « Je vais m'approcher de toi ce matin. Je vais m'approcher de toi, je vais laisser mon cœur aller vers toi puis arrêter de me tenir à l'écart. » Déjà, tu es là ce matin. Déjà, tu écoutes peut-être en ligne ou en différé l'enseignement ce matin. Et Seigneur dit, « Approche-toi de moi. Prends le risque, comme cet homme-là qui prenait un risque. » Parce qu'il dit, si tu veux, puis si, je sais que tu peux, mais si tu veux, mais est-ce qu'il va vouloir? Est-ce qu'il va vouloir le Seigneur? Mais c'est intéressant, voici ce que Jésus a dit sur le vouloir. La dernière fois que c'est mentionné, la prochaine fois que c'est mentionné, sur le vouloir de Jésus. Il a dit au chapitre 7, verset 12, il dit, « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aux autres. » Jésus veut, je pense. Chapitre 9, verset 13, il dit, « Allez donc apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non les sacrifices. » Il prend une parole dans l'Ancien Testament, Jésus, dans Osée. Et puis, Dieu veut la miséricorde, pas des sacrifices en premier. Jésus veut. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque de m'approcher? Deuxième chose qu'il fait, là, j'ai tout avancé les points. Je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai dû toucher ma manette. Je vais les laisser là. Je me suis devancé, c'est correct. Il se confie. Il se confie tout simplement. Il se confie à Jésus. Il reconnaît son besoin et croit que Jésus est assez puissant pour le faire. Vous voyez bien que le lépreux ne demande pas simplement ici la guérison physique, comme je l'ai mentionné, mais une purification. Il veut plus large que ça. Vous savez, c'est intéressant le mot « purification » ici, « catharizo ». Je ne vous dis pas ça pour avoir de l'air intelligent. C'est parce que dans la langue française, on utilise le mot, justement, « catharis ». Peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce mot-là, mais c'est un mot qui est utilisé en guérison pour parler de libération profonde des émotions refoulées qui apporte un soulagement psychologique au sentiment et un sentiment de purification. On a ça dans notre langue qui vient du grec de cette époque-là, de purification, mais pas autant en termes physiques ici qu'en termes émotionnels, spirituels et total. Et que c'est resté dans notre langue en français à partir de ce grec ancien. Et cet homme, vous savez, il va humblement s'approcher, mais il va se prosterner. Il va reconnaître l'autorité de Jésus et il va faire un geste d'humilité après sa demande. Il va montrer sa confiance en Jésus. À travers tout ce rejet-là, il passe par-dessus le rejet pour se courber devant Jésus. Quelle scène extraordinaire d'humilité. Et vous savez, ce matin, le Sauveur attend. Il veut justement t'accueillir ce matin avec ses sentiments où ce que tu te sens indigne. Et un auteur l'a exprimé de cette façon-ci, je vous le lis. Il dit, « Le Sauveur attend de te sauver et d'effacer toute trace de péché et d'impureté dans ta vie. Par la foi, tu peux connaître le pardon total et devenir une nouvelle créature maintenant, là, aujourd'hui. » Parce que Jésus est le spécialiste de la restauration. J'aimerais vous dire ce matin, et je vais le répéter, cette vérité, Jésus ne se contente pas juste de guérir notre problème. Jésus, il veut le purifier, il veut nous restaurer et il veut nous amener à le suivre. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas juste guérir ton problème. Il veut plus que ça dans ta vie, une purification totale. Et ensuite, il touche. Il reçoit ce toucher. Jésus étend la main. C'est le moyen qu'il utilise pour transmettre par cette sorte d'imposition. On dit qu'il étendit les mains, comme pour imposer les mains. Certainement, peut-être qu'il a prié le Seigneur, mais on dit qu'il a touché. Et que c'est par cette imposition des mains que cet homme-là, par cette entremise, qu'il sera guéri. Et il dit à la première, « Je le veux ». Maintenant, on comprend que Jésus, quand il dit « je le veux », il dit « bien, moi, ma priorité dans la vie », il nous le dit dans Jean à plusieurs occasions, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors Jésus, on le lit au chapitre 4, si vous prenez le temps de lire les chapitres précédents, Jésus est conduit par l'Esprit-Saint, continuellement. Il est amené dans le désert, dans une tentation, mais c'est conduit par l'Esprit-Saint. Et Jésus, dans tout ce qu'il fait, on le voit à différentes occasions, conduit par l'Esprit-Saint. Et son désir, c'est de faire la volonté de Dieu. Il dit « je le veux », parce que ça correspond ici avec la volonté de Dieu, immédiatement avec cette foule qui a entendu son enseignement et qui ont besoin de voir Jésus faire des gestes qui montrent qui il est, qu'il est vraiment le Messie, qu'il a vraiment l'autorité de tout ce que dit et prétendu comme enseignement dans les chapitres 5 à 7. Jésus vient le confirmer ici. Je le veux. Je le veux. S'il y avait un doute, le doute est dissipé. Je le veux. C'est quand même pas pire ce que Jésus fait. Moi, j'aurais pas osé le faire. Chez nous, je vous donne un exemple de ça, on gère la gastro d'une façon particulière. On a des traumas à la maison sur la gastro, OK? Si la gastro chez nous, c'est sûr que je te touche pas. C'est sûr. Des jours de temps. On a vécu maintenant une situation où la gastro chez nous, ça fait, je pense, 4 fois ma fille l'a pogné sur une période de 6 semaines. Il n'y avait plus rien à faire. La gastro faisait le tour de la maison. Avec les 9 enfants à la maison, plus les 2 parents, il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Fait qu'après ça, on a développé une stratégie où, lorsque l'enfant a une gastro, on l'isole dans une chambre et là, on ferme la porte puis personne ne traverse cette porte-là pendant 2 jours. On jette de la viande en dessous de la porte. On te donne juste ce qu'il faut pour survivre, une fois que tu as arrêté de vomir, évidemment. Désolé de parler de ça publiquement, là, mais on parle de toucher, c'est sérieux. Là. Et là, si la toilette, il y a une toilette réservée pour le condamné à mort, là, qui est dans l'aile. Puis là, il y a une toilette sur les 4 chez nous, là, il y en a une qui est juste... Puis personne n'y va à cette toilette-là, là, c'est fermé. Puis quand tu approches, on a des gants. Hein? Maman fait sûr que tout le monde porte des gants qui amènent l'assiette à la personne pendant 2 jours de temps, là. Puis être sûr que là, c'est tout fini, il n'y a plus de symptômes, rien. Parce qu'on est tellement traumatisé, on va être sûr, depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui la repogne une deuxième fois. C'est fini. Fini. Je vais vous dire, moi, je ne l'aurais pas touché, ce lépreux-là. Moi, je ne l'aurais pas touché. Si chez nous, on ne touche pas à la personne qui a la gastro, imaginez le lépreux. Hein? Alors, peut-être que vous nous trouvez intense chez nous. On pourra en reparler après. Peut-être que je vous ai choqué là, ce matin. Là. Bon, peut-être que j'ai un petit peu exagéré, mais c'est intense quand même. Jésus, il touche. Les gens qui regardaient ce qui se passait se disaient, mais il est malade. Il ne peut pas toucher un lépreux. La loi nous dit de même pas le faire. Fait que même si tu as le pouvoir, tu es un prophète, tu n'y touches pas. Mais à mon souvenir, parce que je ne me rappelle pas que Élie, il a touché. Il l'a envoyé, hein, dans l'Ancien Testament, il l'a envoyé se baigner. Hein? Dans le petit cric boiteux là, des Juifs là, qui s'appelle le Jourdain, là, au lieu d'un beau grand fleuve chez les Syriens, là, il dit, voyons, mais finalement, il l'a fait, le monsieur, puis il a été guéri. Il n'a pas touché. Jésus, il touche. Et je ne pense pas qu'on réalise ce que c'est, ce geste-là, que Jésus est en train de faire pour le Juif qui est en train d'écouter, de regarder, puis il dit, il ne va pas être touché, il ne va pas être touché. Chérie, il a touché, il a touché, il a touché, il est malade. C'est sûr, la réaction des gens, là, c'est, tu ne peux pas faire une affaire comme ça. Ça n'avait aucun bon sens que Jésus y touche. Mais Jésus est tellement saint, comme serviteur de l'Éternel, le Messie, que la contamination ne pouvait aller vers lui parce qu'il était obéissant à Dieu et que la contamination ne pouvait qu'aller de l'autre côté. Ça ne pouvait que passer de lui vers la personne impure pour le contaminer de sa perfection, de sa guérison, de sa purification. Et Jésus va le faire. Jésus va le faire. Jésus fait des choses qui nous dépassent continuellement. Mais Jésus ici montre la sensibilité envers cet homme qui souffre et il utilise cette situation pour authentifier aussi son identité. Vous savez, notre sensibilité à la souffrance d'autrui est l'un des critères qui mesure aussi notre propre ressemblance à Christ. Christ est sensible à ceux qui souffrent. Et le récit qu'on retrouve, le récit dans Matthieu, le récit dans Luc, sont assez courts. Ils ont trois versets qui racontent cette même histoire-là. Dans le livre de Marc, chapitre 1, il passe 6 versets pour raconter cette même histoire-là. Et on nous dit qu'une des motivations que Jésus avait, c'était qu'il fut ému de compassion en voyant cet homme-là. Quand il l'a vu, Jésus connaissait la détresse profonde de cet homme-là. Et on nous dit dans Marc, chapitre 1, versets 40 à 45, ceux qui veulent le regarder, c'est une des informations particulières qu'ajoute la saveur, justement, de Marc. Il nous dit que c'était motivé. Et on va en reparler dans les prochaines semaines, de la compassion de Jésus. Jésus a été pris dans ses sentiments profonds de compassion à ce niveau-là ici, envers cet homme-là, lorsqu'il a vu, il a été ému de compassion pour la souffrance de cet homme-là. Et c'est ce qui fait qu'il ne pouvait pas être indifférent. Il n'a pas dit, c'est pas le bon timing. Là. Dans la liste des choses que le Seigneur m'a demandé de faire, le lépreux, c'est un peu plus loin, cela. Là. Désolé, tu n'étais pas à l'agenda. Oui, des fois, aider quelqu'un, ça ne sera pas ton agenda. En fait, même ton agenda est occupé, là. Tu n'aurais pas vraiment le temps de l'écouter, cette personne-là qui souffre. Cette personne-là qui a besoin que tu ailles l'aider. Cette personne-là qui aurait besoin peut-être d'être accompagnée à un rendez-vous médical. Ça ne donne pas dans ton horaire. Peut-être Dieu veut que tu bouleverses ton horaire pour faire ça. Vous savez, j'ai souvent manqué envers mon épouse à être trop rigide avec mon horaire. Alors, chérie, je suis désolé, j'ai un comité, puis ma femme, elle vivait l'isolement comme mère à la maison avec plusieurs enfants. Des fois, elle était découragée ou des fois, elle avait de la maladie. Puis j'ai manqué souvent, puis je vous le confesse à ma honte, là, de sensibilité parce que j'avais de la difficulté à interrompre ce qui était prévu. Puis des fois, la plus belle chose que tu peux faire, c'est un entorse à ta foutue horaire rigide nord-américaine pour répondre à un besoin là. Puis Seigneur va s'occuper. Peut-être de ce rendez-vous-là manqué. Peut-être de ce retard-là. Peut-être de cette heure ou deux de paye que tu aurais eu. Puis que Seigneur veut que tu fasses d'autres choses à place. On est des fois rigide. Je parle peut-être plus pour moi-même que pour vous, qui sait. Mais il y en a peut-être d'autres comme moi, comme ça. De la misère à être flexible aux besoins qui est devant moi. Ce matin, quand vous savez, quand je viens le dimanche matin, souvent, je ne suis pas dans un état très disponible pour vous. Quand je viens dimanche matin, je pense à ma prédication, j'ai essayé de ne pas pécher contre l'Éternel à la maison en se préparant pour venir à l'Église, parce que Dieu sait qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut chicaner en famille en allant vers l'Église. Hein? Puis d'être patient, d'avoir géré mon horaire comme il faut, d'être patient dans l'auto. Puis là, j'arrive ici, vous pouvez me poser des questions, puis avoir l'air un peu sauvage. À la tête, là, jusque-là, à penser à ma prédication, il y a un poids spirituel qui est là, puis qui, des fois, et le Seigneur, des fois, m'interpelle là-dessus, là. Il m'interpelle là-dessus. Puis juste avant de partir, quelqu'un me fait part de ce que les brochus vivaient. Une minute avant de partir. Désolé, c'est pas le temps que tu peux m'appeler. Les souffrances, c'est pour plus tard. Dans 3 heures, là, les souffrances, là, pour l'instant, j'ai pas le temps pour les souffrances. Puis le Seigneur me disait, Joël, il faut que tu appelles Jean puis Élise. Fait qu'en route, on a passé du temps avec Jean puis Élise à parler au téléphone parce que je l'ai appris là. Puis on connaît Jean puis Élise. Ici à l'Église, qui ont été à l'Église ici pendant 30 ans avant d'être à l'Église d'aujourd'hui. Le Seigneur veut que des fois je fasse des entorses, je ne suis pas disposé, je n'ai pas le bon temps. Oui, mais y a-tu un besoin, là? Y a-tu un besoin, là? Et je le répète, cette phrase écrite par un auteur que j'apprécie, il dit « Notre sensibilité à la souffrance d'autrui est l'une des critères qui mesure notre ressemblance à Christ, cette sensibilité aux autres, puis d'être prête à répondre, même quand que ça ne m'adonne pas. Vous savez pourquoi Jésus ne se contente pas simplement de guérir notre problème? Il nous purifie, il nous restaure et il nous ramène sur la marche avec lui. Troisièmement, quatrièmement, obéir. Il va te montrer au sacrificateur, parce qu'il y avait une loi qui disait que si tu es impur, bien, pour changer la situation, tu dois être scruté sous la loi avec des règles qui se retrouvaient dans le chapitre 13 et 14 de Lévitique. Il y avait des règles très strictes pour qu'une personne puisse retourner dans la communauté. Il devait être analysé, attendre sept jours, pour être sûr que les blessures cutanées montrent bien qu'ils ont été guéris et que ça ne revient pas. Et que ce n'est pas juste superficiel. Il y a tout un procédé. Et là, il montre qu'il n'est pas contre la loi. Il y a des gens qui disent « Ah, mais il a dit d'abolir. » Non, il a dit « Non, non, il allait accomplir la loi. » Et il montre aussi un peu plus loin, il est le maître de la loi. Il vient remettre la loi en perspective, le Fils de Dieu, qui est maître de la loi. Et il ne l'a pas aboli, il l'accomplit. Et là, il l'accomplit, il dit « Va voir. » Va pratiquer ce que la loi dit. Obéis à la parole de Dieu. Va voir le prêtre. Fais reconnaître ce qui s'est passé là. Parce que c'est super important que tu fasses ça, parce qu'en faisant ça, eux autres vont pouvoir t'authentifier et te permettre de reconnaître que tu es purifié de un. De deux, ils vont savoir qu'il y a un signe messianique qui vient d'arriver. Parce que ça, ça n'arrive pas. Ils vont savoir, hey, le Messie est en ville. Il y a un lépreux qu'on connaît de longue date, puis il est guéri. On l'a authentifié. Il a envoyé, puis ce Messie-là, il a dit d'aller respecter la loi, d'offrir les sacrifices, puis d'aller voir, il est respectueux de la loi. Alors, c'était hyper important ce que Jésus fait ici pour amener aussi cette personne-là dans un état de conformité à la parole de Dieu, d'obéissance, mais aussi de reconnaissance. Parce que les sacrifices voulaient communiquer à Dieu, « Merci, Seigneur. » C'était pas juste des rituels. Ça faisait partie de la relation avec Dieu, de faire des sacrifices pour dire, « Seigneur, je reconnais que ça vient de toi, puis je veux te dire merci. » par cette petite colombe-là que je t'offre en sacrifice, parce que c'est tout ce que j'ai comme moyen. Il l'invite, après avoir été purifié, à l'obéissance. L'obéissance est simplement la manifestation que Jésus est devenu le maître dans la vie de cet homme-là et qu'il a été invité à suivre Jésus et que de suivre Jésus, c'est de suivre le Créateur. Jésus transforme la grâce reçue en obéissance. Voilà le résultat, voilà le fruit d'un vrai toucher de Jésus. Où ce qu'il a reçu se transforme en obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, il y a quelque chose de pas normal dans le processus qui se passe ici. Normalement, il devrait y avoir obéissance qui suit. Lorsqu'il y a vraiment un toucher de Jésus qui a été reçu et qui a une purification. Parce que Jésus donne un toucher totalement inhabituel. Je vous lis, c'est un auteur que j'apprécie, qui est très concis et qui résume le tout en disant ceci. Alors que le sermon sur la montagne sensibilise l'auteur au péché, ce miracle révèle le moyen pour être purifié. Un lépreux était rituellement impur et ne pouvait pas être touché. La foi en la puissance du roi d'Israël, à la volonté de guérir, s'accompagne d'humilité sincère qui a été faite là. En touchant le lépreux tout en restant pur, Jésus transcende la loi rituelle. Et il agit selon le principe supérieur qu'il va parler plus tard dans son ministère au chapitre 22. Lorsque le lépreux purifié se présente au prêtre, il peut recevoir la purification rituelle de la part des prêtres et le droit de faire maintenant partie de la communauté pour laquelle il est isolé depuis des années, pour laquelle il ne fait pas partie des parties, pour laquelle il n'y en a pas de caresses, pour laquelle il n'y a pas de repas spécial, pour laquelle il ne peut pas participer aux fêtes, etc. Il est isolé, lui. Là, il peut retourner dans la communauté tout à coup. C'est super important. Et le prêtre a maintenant un signe que le Messie est venu. Il était nécessaire de garder le silence sur ce miracle en Galilée afin que Jésus ne soit pas maintenant gêné par la réaction des masses superficiellement et qu'il empêche, et qu'on va voir les résultats justement après, que Jésus tente d'éviter. C'est pour ça qu'il lui dit de ne pas aller en parler. Vous savez, si la lèpre symbolise le péché, la purification instantanée symbolise ici le pardon instantané que Jésus peut donner. Souvent, on parle de la maladie, justement, de la lèpre comme une image du péché. On ne nous dit pas que c'est le péché. On ne nous dit pas que parce que tu as la lèpre, tu as péché ou que tes parents ont péché. Mais on nous parle, par contre, de c'est une image graphique du péché. Autrement dit, que si on pouvait voir le péché, ça ressemblerait à la lèpre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, on nous dit simplement ceci, la nature du péché, bien, c'est ceci. Le péché va en profondeur comme la lèpre. Il ne se limite pas à la surface, il va au plus profond. Il se propage toujours, il ne reste jamais juste à un endroit. Il souille, il isole la personne et il n'est pas bon qu'à être brûlé, on nous dit, dans le chapitre 13 de Lévitique. Pas pour rien que l'image est utilisée pour parler un peu symboliquement du péché, comment c'est grave. Mais Jésus ici aime le pécheur et il prend soin de lui et il l'amène à l'obéissance. Et finalement, tout ça le conduit vers être un témoignage. Dernière chose que je veux parler ce matin. Je vous invite à aller dans le livre de Marc maintenant. On va aller dans Marc et on va compléter l'histoire par une petite partie que le livre ici n'a pas. Il nous dit « Va te montrer ». Et etc. Mais il ne nous donne pas un détail du reste de ce que cet homme-là a fait. Et je vais vous lire les versets, Marc 1, versets 44 et 45. Et je pense que ce texte-là nous sert d'atterrissage ici ce matin. Parce qu'il devient un témoignage. Il lui dit, « Prends garde, n'en dis rien à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre pour la purification ce que Moïse a ordonné. » Il oriente vers la loi pour que cela serve de témoignage. Mais lui, étant sorti, commença à beaucoup proclamer et à divulguer la parole. En fait, l'affaire ici, cette histoire-là ici. Si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais qu'il était dehors, dans les lieux déserts, on venait le voir d'un peu partout. Et Jésus voulait éviter ça. C'est pour ça qu'il avait dit, il ne va pas en parler. Mais vous voyez, cet homme-là, après avoir été purifié par Jésus, il ne pouvait pas en parler. Il ne pouvait pas en parler de ce qu'il avait vécu. Il était lépreux. Il était guéri. Puis il y a juste le Messie qui peut faire ça. Il est purifié. Il peut retourner dans la communauté. Il peut retrouver une vie sociale. Il n'y avait rien devant lui. Il était condamné. Il n'y avait aucune utilité en société. Il était isolé. Il était l'ami de personne. Il était invité à personne. Sa fête n'était jamais célébrée. Sa vie ne valait rien. Et là, sa vie prend une valeur, une tournure inestimable, inattendue. Il y avait de quoi parler. On lui aurait reproché de ne pas en parler. Jésus dit, va pas parler, va tout de suite faire ça à place. C'est ça qui est important. Et cet homme-là va en parler et manifester qu'il est un témoignage non seulement de la venue du Messie, mais là, en parler un peu partout. Et là, on voit ici le mouvement ici, assez simple. On voit premièrement s'approcher et se confier à être touché. Vient l'obéissance et tout à coup, tu deviens un témoignage vivant de ce que Jésus fait dans la vie d'un homme et d'une femme qui était impur et qui devient pur. Seulement Jésus peut faire une telle chose. Seulement Jésus peut faire cela. Jésus, vous savez, ne se contente pas de guérir notre problème. Il nous purifie, il nous restaure et il nous remet en marche. Et là, je vais vous donner les points qu'on vient de faire, mais regardons maintenant, qu'est-ce que j'apprends de Jésus? Qu'est-ce que ça me dit sur Jésus quand j'observe ces cinq points-là dans l'histoire? Regardez bien. Jésus se laisse rencontrer. Et voici ce que j'apprends. Il accueille celui qui s'approche de lui. Peu importe comment sale, souillé, impur, intouchable, honteux que tu peux être. Il n'y a rien d'assez contaminant qui puisse le contaminer, lui. Mais il est tellement contaminant que lui peut te contaminer de sa purification. Amen. Peu importe ce que tu vis ce matin, il répond à celui qui reconnaît son besoin. Est-ce que tu peux y demander? J'ai besoin. Toi, tu es capable, je reconnais que tu es capable. Est-ce que tu veux bien? Il ose le demander. Et Jésus répond à celui qui demande et qui reconnaît son besoin. Il touche celui que les autres évitent. Peut-être, Seigneur, nous invite à porter attention à quelqu'un qu'on a de la misère, qui nous tape ses nerfs, qui nous repousse, dont la personnalité nous repousse, dont l'état, peu importe, ou ce qu'il a déjà fait, nous écœure. Fait que moi, je ne veux pas parler avec une personne comme ça. Et que nous, on se place en juge au-dessus de quelqu'un que peut-être Jésus a touché, que peut-être Jésus veut que tu touches, que peut-être le Seigneur veut t'utiliser, toi. Il appelle celui qu'il a restauré à l'obéissance. Et peut-être ce matin, c'est ça ton invitation. Peut-être que tu as été restauré et que tu réalises, « Hey, je ne suis pas en train de suivre la démarche du mouvement naturel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur qui vient court-circuiter cette obéissance-là qui devrait découler naturellement d'avoir été touché de Dieu? Seigneur, explique-moi, montre-moi, éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient court-circuiter présentement ma marche qui n'est pas dans l'obéissance? Parce que je continue à vivre d'une façon qui n'est pas en harmonie avec ce que Jésus m'enseigne. » Il transforme celui qui devient son témoin. Je peux devenir un témoin pas parce que je suis super, pas parce que je suis éloquent, pas parce que je suis beau, capable, intelligent, parce que j'ai un diplôme. Je peux devenir un témoin parce que Jésus m'a touché et m'a transformé. Et c'est sa transformation qui nous rend tout à coup utilisables à devenir des témoins pour lui. Peut-être ce matin, tu te sens indigne. Et le Seigneur te demande ce matin d'arrêter de te laisser dans la honte, éloigné de lui, et d'aller à lui ce matin. Arrête de résister. Va vers lui. Si le lépreux l'a fait dans son état, tu peux le faire par la grâce de Dieu. Et s'il a accueilli lépreux, il l'a touché, il peut t'accueillir toi aussi. Pour celui qui cherche une transformation ce matin, qui ne sent pas qu'il y a eu cette transformation, ne viens pas seulement à Jésus pour qu'il améliore ta situation. Aide-moi pour que mon travail, ça aille mieux. Ma vie de couple, elle aille mieux. Le Seigneur, il n'est pas dans le business que les choses aillent mieux. Mais il veut une transformation dans ta vie. L'Évangile est clair. Il n'est pas venu régler mes problèmes. Il n'est pas venu améliorer ma vie, Jésus. Il n'est pas venu juste répondre à des prières que je lui fais. Jésus est venu pour être sauveur et Seigneur dans ta vie. C'est ça que l'Évangile dit. Il n'est pas juste pour être un petit « oomph » de plus. « Ah, moi, j'ai Jésus de plus dans ma vie. » C'est pas ça. Il veut devenir ton Seigneur, ton Sauveur. Pour celui ce matin qui a été transformé, et si Jésus t'a relevé, ou te demande-t-il maintenant de marcher dans l'obéissance? C'est où est-ce qu'il te veut en train d'obéir? Et même, où est-ce qu'il te veut en train de partager, justement, la foi avec les autres? Partager ton expérience. Vous savez, le lépreux était loin. Et j'ai invité ici Gabriel à s'approcher pour qu'on termine avec « Je te donne mon cœur ». Et le lépreux était loin, vous savez. Il était impur, il était isolé. Puis il rencontre Jésus et tout change tout à coup. Mais remarquez quelque chose, Jésus ne lui donne pas seulement une nouvelle peau à cet homme-là. Il n'est pas allé voir un dermatologue là, qui a donné un bel bout de onguent pour qu'il ait une belle petite peau. Ce n'était pas ça son but. Il lui donne une nouvelle place qu'il avait perdue et meilleure que ce qu'il avait avant dans la société. Il peut retourner maintenant vers les sacrificateurs et continuer maintenant à être en train de communier avec Dieu dans les sacrifices, une expression de sa relation avec Dieu, de reconnaissance, etc. Il peut retourner dans la communauté des gens avec qui il n'y avait plus de relation. Et combien ont besoin d'une famille, d'une communauté, et sont dans l'isolement, qui ont besoin d'un frère, d'une sœur qui ont perdu, d'une mère, d'un père qui ont perdu ou qui n'ont jamais eu, qui ont besoin d'un ami, des amis qui n'ont jamais eu, et qui ont besoin dans la communauté de cette relation-là. Il peut aussi reprendre sa vie qui avait été arrêté, il n'y avait plus rien qu'il pouvait faire. Et finalement, il devient en plus un témoin du Messie, un témoin que la grâce de Dieu est venue sur terre par l'entremise du Fils de Dieu qui marche parmi les hommes. Cet homme-là, lépreux, est devenu un témoin du Fils de Dieu sur terre. C'est pas rien, là. Et c'est ce à quoi on est tous appelés lorsqu'on est purifiés par Jésus. Je vais donc dire ce matin, en terminant ceci, ces deux phrases que j'aimerais vous inviter à prendre en note. Jésus ne se contente pas de guérir notre problème ce matin. Il veut te purifier, il veut te restaurer, il veut te remettre en marche avec lui. Et la question à se poser ce matin, c'est est-ce que Jésus doit purifier quelque chose dans ma vie? Y a-t-il quelque chose que je dois lui donner dans la prière ce matin? Je te donne mon cœur, tout là. Y a-t-il quelque chose que je suis en train de garder dans ma poche, que je suis en train de garder caché à quelque part, que je tiens dans la honte à quelque part, puis que Dieu dit arrête, arrête, approche-toi de moi, donne-moi-le ce matin. Comment ta vie peut-elle changer à partir de maintenant, à partir de ce que Jésus est en train de dire ici ce matin? J'aimerais vous inviter dans la prière qu'on réponde à Jésus dans ce qu'il vient de faire comme miracle et que le Seigneur puisse libérer ton cœur ce matin dans la prière, que tu lui donnes, que tu lui demandes, tout comme lui a osé demander cette demande que peut-être tu as peur, que tu n'oses pas, tu as peur d'être déçu. Courbez-vous avec moi, s'il vous plaît, ce matin. On va prier et terminer dans la prière pour exposer ses besoins devant Dieu en toute simplicité. Seigneur, on reconnaît par ton Fils Jésus ce matin que tu mérites notre confiance. Si ce lépreux, il y a 2000 ans, a pu te faire confiance, je peux te faire confiance ce matin. Et si tu étais digne à cette époque-là, Seigneur, combien plus 2000 ans plus tard, tu es digne encore? On nous dit même dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, que tu n'es pas en train de chômer au ciel présentement, tu continues à intercéder en notre faveur auprès du Père. Tu t'es pas assis pour prendre ta retraite. Tu t'es assis auprès du Père et tu intercèdes encore pour nous. Il y a une continuité dans l'œuvre de Christ. Et ce matin, on veut le reconnaître, te dire merci Seigneur et merci de cette histoire, de cet homme il y a 2000 ans qui t'a rencontré et pour lequel je veux un matin oser m'approcher de toi, te demander pardon pour cette honte que je traîne, que je garde, pour cette chose que je pense qui est trop gros pour être pardonnée, comme si tu n'étais pas capable, Seigneur, de le faire. Je te demande pardon de ne pas te faire confiance. Je veux te le donner ce matin. Je veux te donner mon impureté. Je veux te donner cette honte. Je veux te donner cette chose que si les autres savaient, peut-être ils ne me regarderaient plus jamais de la même façon. J'ai peur que toi, tu me regardes aussi comme ça, Seigneur, ce matin. Mais comme ce lépreux, je pars la foi te le donner. Si tu veux bien, Seigneur, parce que je reconnais que tu peux, libère-moi. Libère-moi de cette honte. Libère-moi de mes péchés. Pardonne-moi. Libère-moi de la colère. Il y a quelque chose qui peut-être me retient dans ma croissance. Libère-moi de cette haine que j'ai de quelqu'un ou une vengeance que je veux envers quelqu'un. Ou cette chose qui est comme un ancre dans l'eau qui empêche mon bateau d'avancer sa rivière. Parce que je traîne ça, ce boulet-là, depuis tellement d'années. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux te le donner ce matin dans le nom de Jésus. Touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Purifie-moi. Libère-moi de ces chaînes. Accorde-moi de pouvoir partir libre pour obéir et partager ce que tu as fait. D'être un témoin pour les autres, du Fils de Dieu qui a marché sur cette terre et qui continue maintenant d'être vivant pour nous, pour la gloire de Dieu. Seigneur, ce matin, il y a des luttes de toutes sortes et je veux te prier pour ces blocages. Il y a peut-être des nœuds présentement qui se luttent dans la prière. Autant ici, Seigneur, qu'à la maison ou en différé, des luttes, qu'il y a des mensonges présentement qui bloquent que je donne. Seigneur, j'aimerais te prier pour ces mensonges, que tu puisses libérer, que la vérité puisse entrer, qu'il n'y a pas de péché trop gros pour Jésus, qu'il n'y a pas une contamination trop grande que Jésus ne peut pas renverser par sa perfection et donner la sainteté. Seigneur, nous voulons croire en toi ce matin, nous voulons combattre pour ceux et celles qui sont au bout de ma rangée, que je ne connais pas, à l'autre bout de ma rangée, que je ne connais pas la lutte, mais Seigneur, je veux prier les uns pour les autres, qu'on puisse, Seigneur, être purifiés, qu'on puisse être libre d'avancer, de marcher avec toi, d'avoir un impact dans cette ville, un impact dans mon foyer, un impact, Seigneur, dans mon travail, qu'on puisse influencer cette ville avec l'Évangile de Jésus. Quel privilège! Quelle mission incroyable! Nous voulons y participer, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Et nous te prions toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus-Christ. D'une seule voix ensemble, levons-nous. Amen. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Bonne semaine.